Un bon boulot, témoignage et discussion sur les grandeurs et les misères du travail. Selon Christophe Dejour, médecin, le travail est une promesse d'accomplissement de soi, souvent non tenue. Comment faire de son travail à la fois un plaisir, une source de reconnaissance et une source de revenus? Salariés, entrepreneurs, artistes, les parcours sont multiples et les trajectoires singulières, hybrides, mais toujours riches d'enseignements. Nous parlons métier et épanouissement au travail, nous cherchons aussi à comprendre comment un bon boulot pourrait devenir un sale boulot. Jean-Jacques Morizur a été chaudronnier à l'Arsenal de Brest, d'abord pour des entreprises sous-traitantes, puis comme ouvrier d'État. Il a cofondé l'association Des Épions, qui fabrique et prête bénévolement des jeux en bois du monde entier à des écoles ou des associations. Il est également membre très actif de la Caisse à clous, une association fondée avec d'autres anciens de l'Arsenal qui met à disposition de jeunes en formation ou de personnes aux revenus modestes son atelier de mécanique et de menuiserie et ses compétences. Jean-Jacques a terminé sa carrière comme chef d'équipe puis responsable amiante. Il avait pourtant redoublé son CE2. Il nous raconte son parcours, son métier, les luttes de l'Arsenal et son passage au privé, sa confrontation aux contradictions du nouveau management et son activité au sein de ces deux associations, la Caisse à clous et Des Épions. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
On va commencer ton histoire,
oui.
Si tu veux, par l'école. Parce que ce qui est intéressant, c'est, enfin, vu d'aujourd'hui, à l'époque ça devait être terrible, mais... c'est que les instituteurs ne t'ont pas trouvé très bon, à tel point qu'ils t'ont fait même redoubler le CE2 et tu as même été en cinquième transition. Voilà. Quelques mots peut-être, pourquoi, comment et comment tu le vis à ce moment-là, cette affaire, ouais.
Oui, donc j'ai 65 ans, donc je suis né en 1960 et donc j'ai été à l'école primaire de Guy Pavin, donc... je démarrais mal déjà puisque je suis gaucher et j'étais dyslexique et j'étais très très timide enfant, donc du coup mes premières années ont été très difficiles à l'école et donc avec une école qui était aussi assez dure.
Oui mais moi voilà. J'ai le même âge que toi et je me souviens oui d'humiliation de coups.
Oui, moi des coups, je m'en souviens être soulevé par la joue ou des coups ou des humiliations, mais comme je prenais beaucoup à cœur et donc du coup ça me peut-être paralysait plus qu'un autre enfant. Donc j'ai eu une scolarité très très difficile, j'ai passé les classes très difficilement. Oui, comme tu disais, j'ai redoublé mon CE2 et je suis arrivé en sixième au collège. Durer les curions avec je suis passé juste en sixième quoi voilà.
Et après on t'a mis dans une classe qu'on appelle de transition à l'époque, maintenant c'est il y a eu CPPN, après je sais plus comment ça s'appelle, SECPA aujourd'hui peut-être. Là carrément les enfants parfois ont des handicaps sévères, enfin,
oui.
On va dire.
Donc en sixième je suivais pas hein, donc en français j'avais pas le niveau suffisant en français, même si j'étais assez fort en maths, en géométrie, tout ça, mais ça n'a pas suffi, puisque en anglais et en français, je ne pouvais pas passer en cinquième normal. Donc je suis passé en cinquième transition, comme tu dis, puisque je n'avais pas encore l'âge pour intégrer un LEP. Donc,
LEP qui est lycée d'enseignement professionnel.
C'est ouais. Ça. Donc je n'avais pas l'âge, il fallait avoir, je ne sais plus quel âge, il fallait avoir plus de 14 ans, ouais. Et moi j'étais trop jeune, donc je suis resté dans cette année de cinquième, effectivement, avec une trentaine de jeunes comme moi, avec de tous les niveaux, de certains qui ne savent pas écrire, à ceux qui se débrouillent un petit peu. Mais enfin, bref, une année de perdue. J'aurais préféré être au collège, au LEP plus tôt.
Ouais. Voilà, bon, alors, si je commence comme ça, ce n'est pas pour faire du Zola ou du Dickens, mais tout simplement pour voir le mauvais départ qui devait te condamner à... à une vie difficile. Et miracle, parce que par ailleurs, peut-être tu peux dire quelques mots aussi, par ailleurs, ton père t'a pas lâché, ton oncle, t'as un oncle qui avait une ferme, on est dans les années 50, 45, 46, non, 60.
60.
Donc c'est la pleine modernisation de l'agriculture. Ouais. Et lui, il agrandissait sa ferme, et toi, tu allais régulièrement avec ton père, donc bricoler chez lui, ouais. Et tu bricolais aussi à la maison. Peut-être quelques mots là-dessus pour voir ce qui, parce que c'est ce qui va te sauver finalement.
Alors, mon père était ouvrier DCN aussi, et donc, il est...
Donc DCN, c'est...
La DCNS, donc la direction des constructions navales à l'époque. Hein. Après, ça a été DCNS.
Dirigeant national.
Voilà. Donc, il est rentré, il a fait des apprentis, mon père. Il est parti très tôt de la ferme et d'un petit village de Plounévater où personne ne sortait du village encore à cette époque-là. Enfin, il était dans... Et il a très vite, effectivement, poussé son frère à s'agrandir parce qu'il avait, vu peut-être un
donc
peu
son
plus
frère
que...
frère qui était agriculteur.
Qui était paysan, qui ouais, était paysan. Agriculteur, oui. Et donc, il a vu peut-être avant les autres ou en tout cas, que ça allait évoluer et que pousser son frère à construire et puis à agrandir sa ferme pour être, rester dans la course ou peut-être être un peu en avance. Et moi, donc, comme c'est vrai qu'à l'école, ça, il n'y a pas grand-chose... J'avais extrêmement de mal. Donc, mon père me prenait très souvent avec lui pour aller bricoler à la ferme. Même à la maison, il bricolait beaucoup aussi. Hein. Il rénovait la maison qu'on avait à la Valotte qu'il a construit en 61, donc avec peu de moyens, avec sa paye de 5e catégorie à l'Arsenal. Et il avait fait une petite maison qu'il a tout le temps bricolé, agrandi, il avait fait un garage, agrandi le garage, refait une salle de bain. Et moi, dans tous ces travaux, je suivais mon père et j'apprenais avec lui. Et parce que le bricolage, je me suis toujours senti bien. Même à l'école, je ne me sentais pas bien. Et donc, avec un outil à la main, j'arrivais à m'exprimer. Et puis, j'étais fier des résultats de ce que je faisais. Quoi. Mon père m'encourageait aussi.
Ouais. Ce qui t'a permis, c'est ça, il faut quand même retenir. À l'école, oui, le travail manuel n'est pas valorisé. C'est terrible. Enfin, bon. En tout cas, là, toi, tu as eu un père qui a, en tout cas, a bien assuré, un oncle aussi. Et donc après, tu as fini par quand même aller dans le LEP chaudronnerie, c'est ça même.
Oui, donc à Lanrosse, donc LEP chaudronnerie. Alors là, je me suis... ça a changé ma façon de voir l'école, puisque même si j'ai tout le temps, je ne vais pas dire dernier de la classe, mais j'étais tout le temps dans les plus mauvais. Et puis avec... même si je travaillais, mais je n'avais pas de méthodologie et je travaillais, j'arrivais pas, je n'avais pas de résultat. Et tout de suite, en LEP, je me suis senti bien. Et d'avoir 16 heures de travaux pratiques par semaine, plus le traçage, plus la techno, que des matières qui me plaisaient et où je pouvais pas m'épanouir, c'est pas le mot, mais j'étais... du coup, moi, tout de suite, en première année de cette formation-là, tout de suite, ma vie, c'est un changement radical de ma vie, en fait, entre le moment où j'étais tout le temps perdant et pour une fois, j'arrive à... que je suis gagnant et donc je suis toujours dans les premiers de la classe, alors que d'habitude, j'étais premier, mais en commençant dans le classement dans le sens inverse.
Oui, c'est un compte de fait, là. Mais tu t'en as conscience tout de suite ?
Oui, tout de suite, je me sens à l'aise.
Donc, tout d'un coup, tu as confiance en toi et oui. Tu comprends que...
Et donc là, c'est vrai que l'étude est mise sur les travaux pratiques en priorité. Donc, ouais. La partie maths, français, anglais, il n'y en a pas. C'est moindre, il y a moins d'heures en fait. De toute façon, même si en français, là aussi, en 3 ans d'LEP, j'ai appris plus en français que toute mon enfance avant, puisque la méthode était plus du tout la même et que j'avais pas mal aux tripes pour aller au boulot, à l'école, ouais, alors que c'est ce qui en primaire j'étais malade pour aller à l'école, ouais, c'était vraiment j'avais un blocage
c'est incroyable que ça arrive en fait. Donc là tu as ton CAP chaudronnerie et en plus miracle aussi dès que tu cherches du travail tu en trouves.
Oui, bah, assez facilement, parce que il faut dire aussi que là, moi, j'ai eu mon CAP en 78, et c'est une époque à Brest où c'est en plein boom. Hein, il doit pas avoir beaucoup de chômeurs en 78, 79 à Brest, puisque je parlerai de l'Arsenal plus tard, mais là, même on cherche des ouvriers partout. Hein, donc, on s'inscrit à la NPE, mais bon, on reste 3 semaines, c'est le plus, hein, parce
Ah, c'est
que,
vrai.
ouais, en 78, 79, et. Voilà, donc j'ai fait, donc à partir de là, j'ai fait une entreprise à l'extérieur, et j'ai demandé à mon père, enfin ça s'est pas très bien passé, parce que moi c'était une petite entité là où le patron était, c'était vraiment, bon, les conditions de travail étaient très dures, et puis oui. Donc j'ai demandé à mon père bah, si on embauchait dans les entreprises privées à l'Arsenal. Mon père était déjà au syndicat CGT de l'Arsenal, donc il connaissait beaucoup de monde. Enfin, en tout cas, il allait dans tous les chantiers, ce qui lui a permis d'aller au chantier réparation de l'Arsenal et de demander si on cherchait du monde. Et puis là, à cette époque-là, on cherchait plein de monde. Donc j'ai été pris tout de suite dans une entreprise. Ouais.
Et après, comme si je me souviens bien, comme ça marchait bien, parce que les gens étaient contents de ton boulot, tu as pu finalement choisir, même parmi les sous-traitants de l'Arsenal, tu as pu choisir les entreprises les plus intéressantes ou les plus rémunératrices, c'est ça?
Oui, donc là c'est la période ouais, de mes 18 ans à mes 21 ans, où cette période-là, j'ai dû changer, j'ai fait mon service militaire aussi, mais j'ai dû faire 8 entreprises, je crois.
À chaque fois,
Et,
c'est toi qui es parti
mais
pour trouver
euh,
mieux, hein.
oui, et puis il était une époque où le contremaître venait vous taper, vous étiez en train de souder ou de bricoler à bord, et puis un contremaître d'une autre. D'un autre établissement
D'une
venez
autre
vous
entreprise vient te
ouais
voir.
viens te taper sur l'épaule, tiens petit, tu veux pas venir chez nous, je te donne 10 centimes de plus de l'heure. Il y a 18 ans, 19 ans, on demande même pas le prix taux horaire. Finalement, j'ai fini dans l'entreprise qui payait le mieux sur l'Arsenal. C'était Bastide à
D'accord.
l'époque, et donc les ouvriers étaient bien payés. Je crois qu'on pourrait dire que si on faisait l'équivalence de la paye d'un ouvrier maintenant. Et à l'époque, en 82, j'espère que je ne dis pas trop de bêtises, mais plus de 2 fois SMIC on était payé, je pense.
C'est vrai, deux
Ouais.
fois le SMIG?
Je pense qu'il y a le
Avec la
taux.
qualification d'un CAP seulement, en fait?
Ouais, mais si on fait le. Parce que quand je suis rentré à l'Arsenal après en 82, je ne sais pas si je peux en parler de suite, mais.
Si, on va y arriver, mais.
J'ai perdu beaucoup sur mon salaire.
Ah, c'est vrai, le salaire est redescendu.
Oui, parce que en fait, j'ai accepté de rentrer en quatrième catégorie. Même si très vite après j'ai passé les échelons, mais j'ai accepté. C'est pour ça que beaucoup des gens qui travaillaient avec moi chez Bastide, moi j'avais 21 ans quand j'ai été embauché à la DCN. Donc moi mon service militaire, ça faisait comme si j'étais rentré. Pour la retraite, je me disais, je vais pas perdre beaucoup 20 ans. Et beaucoup qui avaient 22, 23, 24 ans, ils disent, maintenant je peux pas, j'ai une vie de famille, je ne vais pas me permettre maintenant de perdre 1 000 francs sur mon salaire, quoi, sur un salaire de
C'était
1 000
cet
francs.
ordre-là de perdre 1 000 euros?
Ben 1 000,
Enfin, 1 000
non,
francs, 1 000 francs, je
1 000,
parle de
1 000
francs, ouais.
francs, ouais, 1 000 francs sur un salaire de
C'est énorme.
5 000 francs,
Ah oui,
5 500 francs. Moi, je
d'accord.
suis tombé si ma mémoire est bonne, quand même 600 francs, alors que j'avais 5 600.
Tu avais 5 600, moi je me souviens. J'étais chauffeur, moi, en 84, je gagnais 6 000 francs.
Ouais.
Dans 84.
Ouais, moi
Il y avait une grosse
j'étais.
inflation à l'époque.
Ouais, il y avait de grosses inflations. Moi, là, je te dis, tu sais, c'est en 82. Hein. En 82, je
D'accord,
suis rentré à
ouais, non,
l'Arsenal.
ouais.
Oui, donc je.
Mais peut-être avant d'aller sur l'Arsenal, peut-être. Oui, non, si, parce que voilà. Parce que l'Arsenal à Brest, c'est pas rien. C'est surtout à
Oui.
l'époque, surtout quand on est fils de quelqu'un qui est à l'Arsenal, fils de quelqu'un qui est à la CGT, bref, c'est.
Ouais.
Donc comment tu te représentes l'Arsenal? Et tu disais peut-être que toi, tu imaginais ne pas y arriver. Parce qu'en plus, ils faisaient les concours, ils n'en faisaient plus.
Oui.
Et donc,
Donc,
comment ça s'est passé? Voilà, pourquoi ils ont organisé un concours? Comment tu l'as vu et comment tu l'as eu?
oui, alors la fluctuation du travail, l'Arsenal, ça a toujours été de la politique. Hein. C'est souvent les gouvernements qui étaient en
Oui.
place. Voilà. Mais donc, du coup. À l'Arsenal, faut dire qu'en 82, il y avait énormément de boulot, comme je te disais, dans les entreprises, mais aussi à la DCN, puisque dans le bassin du Chantienne, qu'on appelle le bassin 8, il y avait deux corvettes et un pétrolier ravitailleur en même temps en construction, ce qui n'était jamais arrivé avant. Et en plus, donc, il y avait un pétrolier ravitailleur qui était déjà sorti et qui était sur le quai en finition, et une corvette aussi. Donc, on bossait en même temps sur trois corvettes et deux pétroliers ravitailleurs. C'était d'accord, énorme. Oui, et donc, il fallait énormément de monde.
Vous étiez 8000 à l'époque, c'est ça?
À l'Arsenal, oui, on a donné 7500 déjà, on a été jusqu'à 8500. Oui, donc j'ai eu un peu de chance aussi, puisque comme tu disais, il n'y a pas eu énormément d'embauches. Bon, il y avait les apprentis, il y avait une centaine d'ouvriers apprentis tous les ans à la DCN. Mais la dernière grosse embauche, elle a été en 1974, où ils avaient embauché beaucoup de monde. Après, il y a eu des aléas politiques, des changements de gouvernement. Mitterrand est arrivé en 1981. Il y a eu des gens qui sont partis en cessation d'activité. Et après, en 1982, on a embauché... quand moi, j'étais embauché, je crois qu'on a embauché 200 personnes en même temps. Sans chaudronnier, sans taulier.
Oui, tu parles de chaudronnier et de taulier. Quelle est la différence entre ces deux métiers ?
En fait, chaudronnier, c'est un formeur de tôle. Et à la DCN, les chaudronniers sont considérés plutôt comme des tuyauteurs. Parce que le chaudronnier, c'est une grande famille d'ouvriers qui travaillent la ferraille, en fait. Et des fois, on peut confondre taulier et chaudronnier. Mais,
le taulier est plutôt tuyauteur, c'est-à-dire qu'il pose et il découpe des tuyaux.
Mais tout le monde est chaudronnier, en fait. Mais à la DCN, on appelle chaudronnier les tuyauteurs, en fait. D'accord. Et les chaudronniers qui font de la tôle, on les appelle des tauliers. Tu comprends ce que
d'accord,
je veux dire?
Ouais. En fait, c'est des compétences similaires.
Voilà, c'est ça. Mais ça peut être chaudronnier. En fait, il aurait fallu dire chaudronnier tuyauteur et chaudronnier
mise
en forme ou au carrelage. Enfin, tu sais, voilà comme ça.
Et toi, tu as visé quoi? Parce que voilà, tu avais trois choix.
Et du coup, donc moi, j'avais les trois choix. C'était chaudronnier, mais moi, chaudronnier métaux à feuilles, ça correspond plutôt à taulier que à tuyauteur, quoi. Parce que moi, dans ma formation, j'ai dû cintrer ou filter de tuyaux. Pendant mes 3 ans d'apprentissage.
Ouais, c'est pas ce qui t'intéresse le plus.
Voilà. Et moi, c'était plutôt le formage et la tôlerie qui m'intéressaient. Mais comme j'avais fait 3 vœux et que les concours ont été très rapprochés, je crois qu'il y a eu 15 jours entre les deux concours. Et donc, ce qui m'a permis de passer les deux concours.
Et pour chaque spécialité, il y avait un concours différent.
Et moi, j'ai passé les deux concours en 15 jours. J'étais reçu aux deux. Parce que
d'accord.
Là, évidemment, on ne demandait pas une disserte, on demandait donc...
À faire une pièce.
On demandait à faire une pièce. Bon, il y avait beaucoup de géométrie, des maths. Et puis, bon, il y avait, comment on appelle ça, remplir des cases, d'accord, en français, vous savez.
QCM.
Des QCM. Donc, c'était largement à ma portée, voilà. Et donc, j'ai eu de bonnes notes. Mais
d'accord,
comme j'avais une bonne note, meilleure note en chaudronnerie qu'en tôlerie, ils m'avaient classé chaudronnier, j'ai demandé à changer et d'être taulier, quoi.
Ouais. Donc, oui, tu n'avais pas confiance, mais tu l'as eu. Mais en fait, tu aurais pu avoir confiance, vu qu'avant, tu avais déjà quand même découvert ta capacité pour le CAP, tes capacités pour bosser sur les sous-traitants.
Après, quand on passe un concours, on ne sait jamais à quelle hauteur ça va être. Est-ce que, quand je me suis présenté au concours, moi, je savais que manuellement, je tenais la route, mais je ne savais pas du tout...
tu ne connaissais pas les épreuves, peut-être.
Je ne connais pas les épreuves en français ou autre. Je ne savais pas qu'est-ce qu'on allait me demander. J'avais une appréhension, oui, d'être calé par rapport à ça, quoi.
Bon, enfin, en tout cas, tu l'as eu.
Ouais.
Là, tu es rentré donc, à l'Arsenal, donc la grande cité à Brest.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Et pour faire quoi, alors?
Alors là, j'ai commencé, donc je suis retourné, comme je l'ai demandé, parce qu'ils embauchaient 100 personnes, donc ces 100 personnes ont été dispatchées sur tout l'Arsenal. Moi, j'ai demandé à retourner au chantier réparation, au chantier,
que tu connaissais déjà comme sous-traitant. Ouais.
Et donc, je suis retombé avec pratiquement le même chef d'équipe et dans le même atelier, quoi. Même si j'étais privé avant et qu'on ne faisait que passer dans cet atelier, là j'y étais et puis voilà. Et donc
c'est là que tu faisais de la carlingue d'abord, c'est ça?
Des carlingages, oui. On faisait un petit peu de tout. Hein. Moi je faisais beaucoup de petites tôleries parce que j'étais assez débrouillard et moi dans mon enfant j'ai déjà touché à tout et lesquels me confiaient une liste de travaux. Et donc, bah, je me débrouillais à bord, que je connaissais bien. Hein, je travaillais énormément sur la Jeanne d'Arc. Tous les ans, je faisais 6 mois sur la Jeanne d'Arc.
Tu peux décrire une tâche là,
Oui, par exemple, on me confiait, ben, voilà, je travaillais sur des systèmes de couvercles de friteuse en cas d'incendie avec un système qui se déclenche des coursives. En cas d'incendie d'une friteuse, et ben, les couvercles tombent automatiquement sur la friteuse.
On coupe un détecteur de fumée avec un système automatique.
Voilà, c'est ça. Il y a un déclenchement donc il y avait un système de câblage, un système de contrepoids, un système de... Voilà, c'était...
Oui, d'accord, c'était une petite machinerie quand même.
Ouais. Voilà, c'est ça. C'était un câble qui déclenchait un clapet, voilà. Et ça, et puis ben, je faisais tout, hein, ben, réparer des cloisons, un pont, refaire des petits encastrés dans des ponts. Un petit encastré, c'est quand on découvre de la corrosion sur une tôle, et ben on sonde pour savoir qu'est-ce qui reste comme épaisseur, et puis on découpe la partie qui est
scrapée, une quoi.
Voilà, mais c'est il y a tout un process, hein, parce qu'il faut vraiment faire les chanfreins qui vont bien pour que le taulier ne fait que ne préparer la tôle et pointer. Après, c'est un soudeur professionnel qui vient.
Et toi, tu faisais les deux ? Non, tu faisais que préparer la tôle.
Non. On soude pas. Les tauliers ne soudent pas. D'accord. C'est vraiment des professionnels qui passent des examens tous les mois, qui sont
soudure. Très précis. Ouais.
Là, comme dans l'aéronautique. Pour les ponts, c'était pas le cas, mais pour une coque, ils peuvent avoir une radio pour voir s'il y a le moindre petite fissure.
Ils prennent le matériau en radio.
Ouais. Ils prennent, ils font soit toute la soudure, dans le cas des sous-marins, tout est passé à la radio. Et au chantier, sur les bateaux, on prend un échantillon et on vérifie. Et on sait si le soudeur, on suppose que s'il a soudé bien cet endroit-là, que le reste est bien. Voilà ça, et puis bah, démonter des plafonds, voilà, enfin je
bref, tu avais des tâches assez diversifiées.
Oui, et intéressantes. Par contre, après, bon, ce qui était un peu moins agréable, c'est que je travaillais aussi des fois à fond de cale, hein, la Jeanne d'Arc, il y a plusieurs ponts, les autres bateaux aussi, et donc taulier, c'est dur quand même à cette époque-là, puisque les postes de soudure, ils sont tous sur le pont. Il faut descendre son câble de soudure jusqu'au niveau où vous travaillez, des fois.
Oui, c'est profond. Hein,
Ouais, et puis des fois, vous êtes obligé de passer par les escaliers.
Ça fait quoi ? Ça fait 10 mètres de haut ou 20 mètres ? Je ne sais pas.
Oui, mais c'est-à-dire que vous allez prendre un escalier à un niveau, vous allez passer une coursive sur 20 mètres, vous allez reprendre un escalier pour redescendre.
Oui, il faut imaginer, ouais.
Et donc, le taulier, lui, il descend donc son câble pour pouvoir avoir sa pince à souder. Il descend peut-être un boyau oxygène, acétylène pour découper la tôle. Et aussi, on n'avait que des meuleuses à air à l'époque, à air comprimé. Donc, c'est un gros tuyau qu'il faut aussi faire passer tout. Déjà, quand vous commenciez un travail, vous aviez pour la matinée à préparer votre poste de travail en envoyant gaz et courant et air. Et même à tel point, ce cursif, c'était rigolo parce que les chefs de chantier, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, demandaient un vendredi matin de stopper les travaux et de sortir tous les câbles du bord.
Pour quelle raison ?
Parce qu'on ne pouvait plus passer dans les coursives.
Il y a trop de câbles partout.
Oui, parce que c'était devenu une grosse grappe de câbles parce que chacun ramenait. Et puis à un moment donné.
Vous étiez combien à bosser en dessous là ?
Je sais pas, 50, 60 peut-être. Il y a entre les chaudronniers, les tauliers.
Il va y avoir du bruit, de la fumée.
Ah ouais, des bruits, de la fumée. Les conditions de travail ne sont pas toujours bruit, fumée. Et puis, des fois, vous découpez. Ah oui, des fois, j'ai dit gaz, courant, air, mais aussi un tube d'aspiration.
Ah oui, pour rebalancer tous les déchets. Voilà, la poussière de la découpe.
La poussière et puis la fumée quand vous découpez, voilà. Okay. Et donc ça, mais à l'époque, je pourrais en parler tout à l'heure si vous voulez, mais à l'époque, la sécurité, elle n'était pas comme maintenant, quoi. Enfin, on travaillait dans la fumée, dans la poussière.
Les normes étaient moins exigeantes, et on pouvait perdre des gens finalement, enfin en tout cas les abîmer.
On sortait du bord, on était tout noir à part le rond des lunettes. Hein,
donc, oui, oui, oui.
Voilà. Okay. C'est pour ça que, je ne sais pas si je peux dire tout de suite, assez vite, il y avait une place.
C'est la question suivante, justement.
Ouais, ouais.
Très bien, on anticipe.
Ouais.
La question suivante, pour moi, c'est parce que je me souviens que la ventilation, voilà, tout ce qui fabrique la ventilation d'un bâtiment. Donc, la ventilation, aujourd'hui, on voit des tuyaux plutôt en tissu. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et donc, c'est ça que tu voulais faire. Alors, pour quelle raison et quel est ce travail?
Alors, déjà, la première question, c'était un travail plus intéressant, parce que c'est vrai que si vous faites mettre des rustines dans la tôle, à fond de cale, c'est pas très... quand vous avez fait 10 fois, vous savez le faire, et puis le plus intéressant. Et la ventilation, c'est plus propre. On travaille beaucoup l'aluminium au lieu... plus que l'acier.
C'est plus propre, l'aluminium?
L'aluminium, c'est plus propre, c'est... Et aussi...
Pourquoi c'est plus propre? Ça déclenche moins de poussière
Ouais, ça rouille pas, l'aluminium, quoi.
Ah oui, c'est vrai.
Ça rouille pas, il y a une couche d'aluminium, mais c'est pas la même chose. Et c'est plus propre. Et puis aussi, les gammes de ventilation, c'est léger, quoi. Enfin, c'est de la tôle de 1,5 mm ou de 2 mm ou de 3 mm, vraiment grand maximum. Et là, vous n'êtes plus à vous trimballer de la tôle de 12 ou des gros tuyaux.
Oui,
ou des
corps, ils font moins de
ou des grosses. Oui, et puis voilà. Et le travail est aussi très intéressant, puisque là, ça vous demande quand même... moi, j'ai toujours aimé apprendre et évoluer quand c'était possible. Et donc, la ventilation, j'ai appris beaucoup avec les anciens, parce que ce n'est pas avec mon CAP que j'aurais pu me débrouiller à bord en ventilation au départ, hein, puisque y a beaucoup de... pour expliquer, en fait, on part d'un il faut alimenter en bord, que ce soit les locaux habités par les militaires ou les pièces électroniques ou les soutes, tout ça, il faut envoyer de l'air frais, en fait, c'est ça. Et envoyer de l'air frais, mais aussi évacuer l'air vicié. Et tout ça, il y a des gros, gros ventilos qui font un diamètre, d'un mètre de diamètre, des gros, gros ventilos. Et après, donc ces ventilos-là, il y a des réductions, parce que du coup, on démarre avec un diamètre de 80 de diamètre. On appelle ça des culottes. Donc on réduit.
Mais en bout de course, tu arrives à 50 cm de diamètre ou...
Et au-dessus du lit de l'équipage, et vous avez une gaine qui fait 50 sur 50 et qui vous souffle un tout petit peu d'air, quoi.
D'accord, voilà. Ouais.
Donc, c'est toutes les réductions, c'est de passer d'une gaine déjà de 400 à 256, après de passer à une gaine de 128, de passer à une gaine de 64. Voilà, donc il faut apprendre à faire des réductions. Il y a tous les gaines standards, enfin les longueurs sont déjà achetées comme ça, mais à chaque fois que vous avez une courbe, que vous avez un coude, que vous avez une réduction...
Il y en a beaucoup de sur un bateau.
Ah oui, ça tourne. Ça. À chaque fois que vous allez passer une cloison, à chaque fois que vous allez passer un pont, vous allez devoir faire une gaine de ventilation spéciale, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Moi, je vois de loin comme ça, mais je ne connais pas le boulot, mais j'imagine que c'est aussi se foutre dans des coins pas possibles, tout
ouais.
Petit.
Alors, il faut... on a mis en ventilation, donc les grosses gaines, au départ, sont attachées avec tout un... C'est plus comme ça maintenant, hein. Mais à l'époque, c'était deux cornières dos à dos là, qui attachaient les deux gaines ensemble, et c'était des petits boulons de 8. Donc, on avait des clés de 13, et puis il fallait boulonner tout le tour.
Tu boulonnes des boulons de 8 avec des clés de 13?
Des boulons de 6 ou de 8. Mais enfin, c'était des clés de 13, en tout cas, je ne sais plus. Ouais, de 8 de diamètre, quoi. Enfin,
ah oui, pardon.
Oui, 8 de diamètre.
Moi qui ne connais rien, je me permets d'intervenir.
Du 8-16, donc on en a mis en ventilation, on en mettait des boîtes et des boîtes et des boîtes. Et c'est vrai, comme tu dis, des fois, les gaines de ventilation, on essayait de faire en sorte qu'ils prennent le moins de place dans les pièces, évidemment. Donc, c'était dans les recoins. Donc, les dernières petites...
C'est abominable, on aime bien faire ça.
Ça, c'est pas la partie la plus agréable, mais au moins ça fait partie du jeu, quoi. Enfin, le truc qui est bien aussi, c'est que vous allez de A à Z, quoi. Quand vous avez votre circuit, votre plan, donc vous partez d'un point pour arriver à un autre, et vous débrouillez, quoi. Normalement, vous êtes...
C'est le même ouvrier qui fait le,
ouais,
le circuit entier.
Bien sûr, hein. Ouais, qui fait déjà, donc il va se débrouiller pour prendre tous les longueurs droites, faire tous les coudes, calculer. Et donc, on a chacun... Il y a un plan, quoi. Il y a un plan par... et voilà, un plan... enfin, c'est les chaudronniers. Bon, ça aussi, c'est un plan en trois dimensions. Enfin, vous voyez les descentes, les coudes,
ouais,
les angles.
Oui, ouais. Ouais, ouais.
Et donc, bah, il faut se débrouiller avec ça. Voilà. Et les gaines, on les pointait aussi. Après, on envoyait, parce que les grandes longueurs, c'est le soudeur qui faisait. Mais donc, du coup, j'ai appris à souder à l'argon aussi, ce qui est chouette comme soudure. Ouais.
Ah ouais. Qu'est-ce qui est chouette dans une soudure?
Bon, c'est chouette de savoir le faire et de pouvoir le faire. C'est de la jolie soudure propre. Enfin, voilà.
D'accord, ouais. Ok, là, on voit le boulot. Hein. On est au fond des cales avec des tuyaux et du savoir-faire, des fers à souder, des trucs pour plier, etc. Des plans très compliqués. Et des étages à traverser, etc. Je vois bien l'affaire, enfin, je crois la voir. Le plaisir, on voit bien déjà le plaisir, c'est de réaliser des choses complexes, apprendre des matériaux, des procédés. Les copains, peut-être, je ne sais pas.
Oui, alors là, il y a, bah, plus vous descendez de niveau dans le bord, plus il y a de solidarité, en fait.
Ah, c'est vrai, ouais. Plus on descend, plus c'est solidaire.
Ouais, c'est moi qui dis ça, mais c'est vrai que quand vous êtes dans la machine, par exemple, si vous avez un souci, ben, que ce soit des mécaniciens, des chaudronniers ou n'importe quelle corporation qui est autour de vous, vous aidera de toute façon.
C'est vrai. Ouais. Ouais.
Et ça, on le voit moins dans d'autres chantiers. Il y a une grosse solidarité entre les ouvriers, quoi. Déjà entre eux, même spécialité, mais et après, du coup, c'est vrai que quand vous êtes dans une machine d'un bateau. Et ben, tout le monde est à la même enseigne, quoi. Enfin, il y a pas.
Ah oui, tout le monde se sent.
Voilà, on se sent tous égaux et donc tout le monde s'entraide. Et puis, si un chaudronnier est en train de passer un tuyau et qu'il a du mal à passer, ben tous les ouvriers qui sont loin, que ce soit des tauliers ou des mécaniciens, tout le monde va l'aider à passer son tuyau. Ça, c'est sûr.
Voilà. Donc c'est à la fois agréable, ouais, et efficace. Voilà. Pourtant, aujourd'hui, on évalue les gens toujours individuellement. Hein.
Ouais, mais
on n'évalue pas le gain collectif.
Mais bon, c'est ça, c'est la solidarité entre ouvriers, quoi.
Super, ouais. Super. On va la retrouver à la caisse à clous.
Ouais.
50 ans plus tard, 30 ans plus tard. On voit le plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Bon, enfin, on le voit. Il y a une certaine autonomie aussi, j'ai l'impression.
Ouais, moi, ça m'a toujours. J'ai toujours été à l'aise avec. J'ai toujours été assez autonome, ouais.
Parce que c'est pas partout le cas. Hein, souvent, il y a des boulots où tout est sous contrôle, quoi.
Ouais, mais bon, après, il y a là aussi une confiance. Enfin. Je sais que je me mets à la place d'un chef d'équipe, il sait que tel ou tel ouvrier, parce que là on travaille tout le temps en binôme normalement,
d'accord,
et à bord, enfin pour une question de sécurité, et il sait à qui il peut confier tel travail, à qui il peut confier tel travail, et qui a les capacités pour. Moi j'ai toujours été à l'aise avec ça, et je me suis souvent retrouvé des fois chef de caisson, quoi, enfin ce qu'on appelait ça, chef de caisson, c'est-à-dire que
le caisson c'est une partie du bateau, c'est ça?
Non, c'est pas non. Ça, c'est que il y a une caisse à outils et chef de caisson,
ah,
c'est
celui
c'est
qui est le chef de la caisse à outils.
Ouais. Non, mais enfin ça m'est arrivé d'être assez jeune.
Du coup, ça te permet ça te donne aussi un rôle de coordination peut-être?
Ouais, même si les deux ouvriers sont au même niveau et prennent des décisions ensemble, mais bon, des fois t'as un peu plus d'expérience que celui.
Oui, du coup, tu confies une responsabilité supplémentaire.
Ouais, voilà.
C'est flatteur. Moi, je crois voir le plaisir, je crois voir le boulot. Et parallèlement, voilà, il y a des événements mondiaux et il y a des décisions qui sont prises en haut lieu. Entre autres, en 1996, donc on est après Maastricht, je crois, je ne sais plus quand c'est Maastricht.
En 96, oui.
Ouais, où il est demandé à chaque pays européen de ne plus garder le monopole d'État sur la construction des navires militaires. C'est assez étrange, mais bon, c'était une décision. Et donc, il y a un grand cap qui est la privatisation. Ça, c'est une première chose. Et il y a la deuxième chose, c'est 89-90, il y a l'écroulement de l'Union soviétique. Les conflits se déplacent du nord de l'Europe vers le sud. Dans le même temps, hein, il y a la guerre d'Irak, etc. Et donc, il y a tout ça qui des nuages qui s'amoncellent au-dessus de vous, oui. pendant que vous oui. soudez les plaques. Et donc, face à ça, à Brest, à l'Arsenal, ce qui s'est organisé, c'est un syndicat puissant, unifié, et qui a obtenu ce qu'il a obtenu, mais enfin, qui a quand même mené des combats importants. Peut-être qu'on peut en parler un peu déjà. Moi, je donne quelques chiffres. On est passé de... En 96, vous étiez 8000 ou 7005?
Non, on n'était plus déjà... En 82,
oui.
On était...
82, oui. Ouais. Et donc, oui. Et après, en 2004, vous êtes passé à 1500. Donc, il faut imaginer quand même. C'est énorme. Ben... C'est, on divise par 4, par plus de 4, par 6, peut-être.
Oui. Ouais,
Il y a ça. Et il y a une chose dont il faut parler, c'est le statut d'ouvrier d'État. Voilà,
voilà, c'est ça.
Et pour compléter, pour vraiment faire tout le tableau... l'État s'arrange à avoir des ouvriers d'État, mais surtout de plus en plus à sous-traiter, donc aux entreprises sous-traitantes. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler à la fois des conflits qui ont lieu, des réactions qu'il y a eu, de cette vie syndicale, qui est un peu vaste, mais bon.
Oui. Alors, les ouvriers d'État ont toujours été dans le collimateur de l'État, de toute façon depuis 96, comme tu disais, puisque en fait là, il a été décidé qu'il n'était plus obligé d'avoir une armée. Chaque pays d'Europe avait son armée propre, mais on pouvait peut-être concilier le tout. Bon, ce qui est maintenant, on revient en arrière, mais allez. Donc du coup, et puis aussi, c'était pas bien vu pour chaque État d'avoir des ouvriers d'État, parce que des ouvriers d'État avaient un statut, enfin comme tous les statuts EDF ou SNCF ou ailleurs, les statuts, ben, protègent les ouvriers. Les ouvriers se sont battus par des combats syndicaux depuis de tout temps, hein, que ce soit en 36, en 51. À Brest, ça a été fort. En 51 aussi pour les statuts. Et ces statuts-là ont toujours protégé les ouvriers.
Et tu crois que c'est ça la mécanique, c'est-à-dire les statuts protègent trop les...
Du coup, on était des ouvriers relativement, enfin, d'après l'État, trop payés. Pour nous, on était payés, en fait. Hein. Et ça, c'est toujours été dans le collimateur de l'État. Il fallait à tout prix casser les statuts, c'est toujours ça. Donc, ça a été notre combat. Moi, depuis que j'étais, donc à 18 ans, j'étais syndiqué à la CGT. Et parce que je considère que la CGT, c'est le syndicat qui a... Enfin, moi, ce que j'ai vu à la DCN, c'est le syndicat qui est le plus proche des ouvriers, qui défend, qui va jusqu'au...
Pour l'Arsenal, c'est vrai. C'est pas forcément
ouais.
vrai, mais partout.
Ouais.
Mais
moi, je l'ai, l'Arsenal, c'était ça. Ouais. Je l'ai senti comme ça. Et du coup, moi, enfin, j'étais aussi dans un milieu, moi, qui était... Là, au chantier, en 82, on était à 75%, 80% syndiqués, en fait. Il y avait très peu de gens qui ne se syndiquaient pas. Et d'où cette solidarité aussi. Et on se battait pour défendre nos statuts. Parce que moi, en fait, moi, de 82, je ne me suis pas souvent battu pour acquérir quelque chose ou un nouveau droit ou autre, ou très peu. Mais souvent pour défendre ce qu'on avait déjà et ce que nos anciens avaient acquis pour nous. Quoi. Parce que, comme je vous dis, c'était dans le collimateur du gouvernement successif, les ouvriers d'État. D'ailleurs, maintenant, c'est réduit à une peau de chagrin.
Alors, oui, donc j'ai parlé de 1950-51, donc il y a eu un mort. Bon, toi, Jean-Jacques, tu attribues ça peut-être de manière très gentille, finalement, à une panique.
Ouais.
Mais bon, les syndicats étaient là pour des luttes globales, mais aussi, quelles étaient les autres tâches du syndicat, les autres actions du syndicat selon les chantiers ouais.
Moi, pour le chantier R où j'étais, donc, comme je te disais, on était grande majorité syndiqués à la CGT. Ben, ça pouvait être toute chose, hein, défendre des fois, ben, voilà, il y a un vestiaire, ça n'allait pas, il n'y avait pas assez. Bon, après, les femmes sont arrivées, il a fallu se battre aussi pour qu'elles aient des conditions de travail, des vestiaires adaptés.
On a embauché sans créer les conditions pour les accueillir.
C'était un peu juste au départ.
Ah ouais,
voilà. Et ça a été dans certains chantiers, surtout dans les chantiers où on allait à bord, parce que c'était plus compliqué, parce qu'il fallait avoir des vestiaires pour les filles. Enfin, bref, c'était tout le temps, il y avait une section syndicale par chantier, en fait. Cette section syndicale se réunissait Et donc, essayer de régler et d'aller porter, enfin, la défense de...
Oui, de se porter médiateur, parfois, sur un conflit.
Voilà. Demander à la direction des améliorations par rapport aux conditions de travail de l'atelier, quoi. Tu vois.
Tu m'as donné un exemple, moi, qui m'avait beaucoup plu, c'était accident du travail. Donc, tout de suite, aujourd'hui, c'est comme ça. On a tendance à accuser la personne qui s'est mise en accident. Ouais. Et le syndicat était là pour rétablir tous les déterminismes collectifs qui font que s'il y a eu l'accident, c'est peut-être que ça va trop vite, etc. etc.
Voilà, voilà. C'était un des rôles aussi de quand un ouvrier pouvait être en mauvaise situation pour avoir fait une bêtise ou pas, ou avoir été considéré pour... les syndicats se portaient aussi en avocat devant la direction pour défendre les collègues, quoi. Parce que tout à l'heure, je te disais que quand je suis rentré à Arsenal, moi, j'ai perdu beaucoup de salaire. Mais je te disais que là, on avait un bon salaire en 82.
Les salaires ont baissé après.
Mais très, très vite, nous, on avait des conventions collectives qui nous ont protégés un peu. Nos statuts, d'ailleurs, qui nous ont protégés. Mmh. Tandis que dans les entreprises privées, ça a été la casse complète. Hein. Leur salaire est tombé en flèche.
Ah, c'est vrai.
Et c'était des contrats de 3 ans qu'ils avaient pour travailler. Avec nous, enfin pour chaque contrat à chaque fois était diminué à la baisse au détriment des ouvriers en fait, hein, toujours en tirant.
Pourquoi le rapport de force s'est inversé là? Parce qu'on trouvait plus facilement des ouvriers ou parce qu'ils exigeaient moins de compétences?
Non, c'est l'offre et la demande. En 82, il y avait du boulot par-dessus la tête. Là, à un moment donné, on a dit on stoppe la construction neuve.
Ah oui, il y a eu moins de moiteaux construits.
Voilà, c'est ça. Donc la construction neuve, c'est le chantier qui faisait. Travaillaient beaucoup les entreprises privées. Quoi,
tu vois. D'accord. Ouais, ouais.
Et dès qu'il y avait un bateau en moins, ou 2 bateaux en moins, 3 bateaux en moins. Et là, on a vu entre 80.
Ça donnait le pouvoir aux entreprises privées. Là,
voilà, c'est
ça.
Leurs
propres employés. Ouais.
Ouais. Et là, il faut voir. Nous, on a connu ça. Pour te donner un petit exemple, au chantier, il y avait des bateaux à couple sur tout le long du quai. Jusqu'à la base sous-marine, jusqu'au chantier. Il y avait des bateaux à couple. Tu sais, c'est qu'il y avait... ouais. Et des fois, même, il n'y avait pas assez en couple. Ils étaient
en
triple. Et maintenant, il faut voir...
Oui, c'est vide.
C'est vide du chantier, de l'ancien chantier, parce que le chantier a été rendu à la marine, enfin, tous les locaux. Jusqu'à la base sous-marine, il n'y a plus de bateaux. Il n'y a plus.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, il y a énormément de bateaux qui ont été envoyés à la casse. Beaucoup ont été vendus. Des chasseurs de mines et tout ça a été vendu à des pays étrangers et on n'a pas construit que...
Qu'est-ce qu'on a vendu? On a vendu quoi
Des chasseurs de mines, on a vendu aussi...
On a vendu le carnet de commandes ou
on a vendu les pétroliers, enfin les...
La construction
Même le porte-avions a été vendu aux Brésiliens à un moment donné, je ne sais plus les dates mais... Ouais.
Ah oui, l'entretien tu veux dire, ouais.
Ouais.
Non, mais enfin, les bateaux eux-mêmes, ouais.
Le bateau eux-mêmes.
Oui, il y a un porte-avions qui a été vendu.
Ouais. Et je ne sais plus à quelle date, jusqu'à ce que... là, le privé, l'Arsenal, là, on menait le même combat, c'est de demander à construire de nouveaux bâtiments, quoi. Et c'est là que les BPC ont...
Précisons, les BPC, donc c'est des bateaux qu'on utilise pour les débarquements, comme on a vu en 44
sur la Normandie. C'était des TCD, transport de troupes, de matériel et de troupes. Et maintenant, la nouvelle génération, c'est les BPC.
Et ça, c'était le résultat d'une lutte, je crois, non, d'obtenir cette
construction. Oui, parce que là, de 82 à 96, il y a beaucoup qui ont été de bateaux et de boulots qui ont été transférés vers les autres ports, surtout vers Toulon, quoi.
Et donc Toulon et même l'Orient. Ouais.
Ouais.
Ok. Bon, pour cette première émission, on va s'arrêter là et on retrouvera Jean-Jacques dans 15 jours, donc sur Radio U, où là on va aborder parce qu'au fur et à mesure qu'on sous-traite, ou plutôt qu'il y ait moins en moins de bateaux, qu'on casse les statuts, qu'on vire les gens. Tu disais que c'était le dernier des Mohicans, donc à la fin, il n'y a plus grand monde à l'Arsenal. Et dans ce contexte de restrictions, là, tu deviens quand même un moment, tu vas devenir chef d'équipe, coordinateur, responsable qualité.
Pas chef d'équipe.
Non, tu vas coordonner des équipes.
Voilà.
Donc on parlera de ça la semaine prochaine et on finira aussi sur ton travail associatif qui a commencé quand tu travaillais. Donc, merci Jean-Jacques. Au revoir.
Merci.